Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Le premier texte que j'aimerais lire se trouve dans Matthieu au chapitre 9, au verset 37. Jusqu'au verset 38. Je vais même lire à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut ému, car il était lassé et abattu, car elles étaient lassées et abattues comme des moutons qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Il y a un autre texte, mais je le lirai plus tard, si ça ne gêne pas Vincent. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà, à mon avis, le genre de parole qui nous est familière. Nous l'avons entendue, nous l'avons réentendue. Et les paroles du Seigneur qui précèdent la désignation et l'envoi des 12 apôtres est un texte classique de motivation pour la mission. Et je sais que notre Église a le souci de la mission, de l'œuvre missionnaire. On utilise souvent ce texte pour réveiller, pour fortifier l'intérêt pour la mission parmi les chrétiens, à juste titre. Parce que finalement, être envoyé, être missionnaire, ce sont des mots qui sont à peu près synonymes. Mais voilà. Sa familiarité de cette parole pourrait ou risque d'émousser l'attention et de faire qu'on ne remarque plus certains traits particuliers dans ce texte. Et pour éloigner ce risque, je vais me concentrer sur trois étrangetés contenues dans cette parole de Jésus. Vous avez dit, tiens, Jésus dit des paroles étranges. Les avez-vous remarquées ? Frères et sœurs, elles sont riches d'enseignements. Pourquoi le maître demande-t-il la prière ? Pourquoi le maître demande-t-il la prière ? L'instruction que donne Jésus a de quoi ébouriffer notre logique. Je m'explique. On comprendrait de sa part un appel au volontariat qui veut me suivre, qui veut bien répondre à mon appel, qui veut aller. Mais ce n'est justement pas ça. Il faut que le maître envoie. Mais si le maître envoie, pourquoi prier ? A-t-il besoin de conseils ? Pour qu'on lui dise envoie Michel Paya, envoie Jean-Luc Koenig, etc. Est-ce qu'il a besoin qu'on lui donne des renseignements ? Ignore-t-il la situation ? Notre maître serait-il distrait ? Voilà des hypothèses bien ridicules, puisque c'est Jésus qui est un avec le maître qui prononce ces mots. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Cette étrangeté caractérise toute la prière de requête qu'il y a dans la Bible. Nous prions que Dieu fasse ce qu'il veut. Non pas ma volonté, vous connaissez cette parole, mais la tienne. Et à la suite de Jésus, nous pouvons dire exactement la même chose. Et toute autre prière serait d'une sottise profonde et d'une prétention sidérale. Le maître, et c'est là que je veux vous rejoindre, Le maître qui reste le maître, voyez-vous, veut nous associer à son œuvre au point qu'il attend que nous lui demandions. Il n'est pas lié à notre demande. Il n'est pas lié à notre demande pour agir. Il n'est pas paralysé si on ne le prie pas. Si on ne le prie pas avec une grande précision. Mais voilà, nous avons un maître qui se plaît en règle générale à attendre notre prière pour passer à l'action. En tout cas, il nous invite à la prière. Il pourrait le faire tout seul, mais il veut nous associer à son œuvre. Frères et sœurs, voulez-vous vous associer à l'œuvre du Seigneur ? Il peut le faire tout seul, il n'a pas besoin de vous, mais il vous aime tellement qu'il vous demande de prier. J'ouvre une parenthèse. Depuis peu de temps, il y a un espace de prière à la chapelle protestante rue Pierre Corneille. J'y étais il y a 8 jours et je vous assure que ceux qui étaient là se sont fait beaucoup de bien. Je voulais rendre ce témoignage pour vous encourager à y venir. Ça dure 3 heures. Il n'y a plus personne. Vous venez quand vous voulez, vous partez quand vous voulez. Vous restez un quart d'heure, une demi-heure, mais je suis sûr que si vous venez pour un quart d'heure, vous allez rester au moins 1 heure. C'est un temps où l'on prie, où on loue ensemble le Seigneur, où l'on apprend à prier, où l'on prie les uns pour les autres. C'est un moment où l'on se fait du bien. Et je vous assure, en tout cas pour moi qui y étais la dernière fois, je suis reparti fortifié et encouragé. Alors mon but était de vous encourager à venir prier. Le maître de la moisson vous attend. Vous devez prier. C'est la volonté du Seigneur de nous associer. C'est vrai qu'il pourrait se passer de nos prières. De nous confier cet honneur insigne qui éclaire l'envoi des moissonneurs. Dieu pourrait employer, alors excusez maintenant les expressions que je vais utiliser, Dieu pourrait employer pour faire son travail des moissonneuses batteuses. Des légions d'anges. Mais au lieu de cela, alors excusez vraiment l'expression, il utilise des faucilles ébréchées. Ben c'est vous et moi. Hein. Il utilise des mains malhabiles, des genoux chancelants, de ces ouvriers fatigués de naissance que nous sommes. Et il nous utilise. Mais il veut nous employer ensemble, c'est-à-dire, il veut employer ceux qui prient, ceux qui donnent et ceux qui vont. Vous êtes dans l'une ou l'autre des catégories. Il y a ceux qui prient, il y a ceux qui donnent, et il y a ceux qui vont, et il y a ceux qui font les trois. Voulez-vous entrer dans ce projet ? Le maître vous le demande. C'est un honneur. La moisson, et c'est le deuxième point, est-elle si grande ? Jésus donne pour raison à la prière, la moisson est grande. Mais où est-elle donc la grande moisson ? Que voyons-nous quand nous levons les yeux ? Au lieu d'une vaste moisson de blé doré, nous voyons un horrible terrain vague où foisonnent des orties, quelques parcelles cultivées, mais c'est souvent du cannabis. Pour abandonner l'image, voyons-nous les foules se presser aux réunions évangéliques ? L'opinion publique s'ouvre-t-elle à la parole de Dieu ? Par contre, nous voyons parader dans les rues de nos villes ceux qui bafouent ouvertement la loi de Dieu, qui déshonorent leur propre corps, soutenus bien sûr par les médias, quelquefois les responsables politiques de gauche ou de droite, Et ceux qui montrent leur fin spirituelle sont fascinés la plupart du temps par des sectes qui sont malsaines. Alors, la moisson est grande, dit le Seigneur, qui a une vue, lui, plus perçante que nous. Il voit au-delà. Nous ne voyons pas la moisson, mais lui la voit. À Corinthe, ville idolâtre et impudique, Dieu dit à l'apôtre Paul, « Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Mais Paul ne le voyait pas. Dieu a un peuple nombreux dans la ville de Valence. Vous ne le voyez pas, ce peuple que Dieu veut sauver. Mais notre rôle, c'est de prier le maître de la maçon d'envoyer des ouvriers. La pénétration du regard du Seigneur est liée à son choix souverain. Mais aussi, me semble-t-il, à ce qu'il impressionne, selon le verset 36. Il est ému de compassion, le Seigneur, en voyant ces hommes et ces femmes comme des moutons égarés, prostrés, à bout de force. Là où nous voyons, nous, quelquefois, des pécheurs arrogants, propagandistes, sectaires, lui voit des gens écrasés, le Seigneur. Pas tout à fait la même chose que nous. Nous voyons des pécheurs. Il n'y a pas grand-chose à faire. Lui voit des gens fatigués, harassés, et il dit, il y a quelque chose à faire. Jésus voit selon la vérité. Il voit des hommes et des femmes malmenés, désorientés, épuisés dans notre ville de Valence. Il voit la souffrance, et dans son amour, il souffre de leur souffrance. Frères et sœurs, la foi, le regard de Jésus, greffé dans notre regard, nous porte à prier, ou à donner, ou à aller. Si nous nous laissons imprégner par la personne même de Jésus, nous allons soit prier, soit donner, soit aller, soit faire les trois. Peut-être que deux, mais c'est mieux si nous faisons les trois, si nous prions, si nous donnons, si nous allons. Alors il ne s'agit pas d'aller en Inde, d'aller en Chine, d'aller en Iran, d'aller en Irak. Non, il s'agit d'aller autour de vous. Il y a quelque chose à faire. La moisson est grande. Oui, elle est grande, parce que le Seigneur voit avec son regard. Et nous avons besoin de nous laisser imprégner par le regard de Jésus pour voir comme lui il voit. J'arrive à la dernière question. Est-ce le temps de la moisson? Mais au fait, comment Jésus peut-il parler de la moisson? À mon avis, la moisson, c'est un symbole pour la fin des temps. Nous, quand nous parlons plutôt de semaille, nous semons. Nous ne moissonnons pas, nous semons. Le passage qui éclaircit cette difficulté, c'est celui qui suit la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Jésus souligne le décalage qu'il y a. Les disciples qui se fient à ce qu'ils voient disent « La moisson n'est pas encore là, encore 4 mois jusqu'à la moisson. » La scène se passe, probablement en janvier, et Jésus voit au-delà de l'apparence. Déjà les champs blanchissent. En d'autres termes, bien que l'histoire semble suivre son cours ordinaire, plutôt désespérant, levez les yeux, frères et sœurs. Voyez plus loin que l'apparence, la fin a déjà commencé. Le règne de Dieu s'édifie mystérieusement dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Mais nous devons être conscients de la tâche qui nous est confiée et du privilège qui nous est accordé. Le Seigneur, dans sa bonté, veut nous utiliser. Frères et sœurs, la moisson est grande. Dieu engrange pour l'éternité. La fin est plus proche qu'il y a 2000 ans. Il y a urgence. Et je vais traduire le texte d'une autre façon, au lieu de dire envoyer, que le Seigneur jette, que le Seigneur vous jette dans la ville de Valence, que le Seigneur fasse sortir, envoie des ouvriers dans la moisson, parce que littéralement, envoyer c'est jeter. Que le Seigneur jette. Je sais que vous n'avez pas envie d'être jeté parce que vous ne voulez pas vous faire mal. Mais ce que le Seigneur vous demande risque de vous déranger. C'est pas grave, il est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Dieu nous fait l'honneur, et c'est ça qui me touche, de nous associer à l'accomplissement de son œuvre de grâce. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Prions pour qu'il envoie. Attention, c'est dangereux, parce que ça peut vous tomber dessus. J'ai toujours aimé une des phrases qu'Émile Nicole prononçait, « Prier, c'est dangereux, parce que vous risquez d'être exaucé. » Mais ne pas prier, c'est catastrophique. Alors il vaut mieux prendre le dangereux que le catastrophique. Prions pour qu'il envoie, donnons pour soutenir ceux qui sont envoyés, allons, s'il lui plaît de nous envoyer, sa moisson est une grande moisson. Elle est belle et nous y sommes engagés. Frères et sœurs, qu'allons-nous faire? Et c'est là que j'en viens au texte qui peut être contradictoire qu'on trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Quand il est dit « Qui enverrai-je » et qu'Ésaïe répond « Je suis prêt, envoie-moi » et Dieu lui dit « Va !» Mais il ne sait pas où il va. Hein. Ça, il faut faire attention. Hein. Il ne sait pas du tout où il va. Il va le savoir après. Tout ce que tu vas faire, personne ne va t'écouter. Alors je vous le dis, ce sera ma conclusion. Qui enverrai-je? Me voici, je suis prêt, envoie-moi. Et le Seigneur vous dit, va. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Frères et sœurs, associez-vous à l'œuvre du Seigneur. Amen. Je vais prier avec vous. Seigneur, tu entends dans nos cœurs ce qui se passe. Et nous voulons tout d'abord te remercier parce que tu nous accordes ce grand privilège de nous associer à ton œuvre. Tu peux te passer de nous, mais tu ne le veux pas. Tu veux nous utiliser. Tu nous invites à prier. Tu nous invites à donner. Tu nous invites à aller. Seigneur, que nous trouvions notre place. Seigneur, que comme le prophète Ésaïe, à la question qui lui est posée, « Qui enverrai-je ? » nous puissions répondre, chacun pour notre part, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et nous entendrons de ta part ce simple mot.